Les ruches, ça va.
Si j'étais ruche.
Mais ça va nous aider à être un peu ruche, cette histoire-là. Donc, c'est un peu le grand bonheur. On est sur le toit du centre urbain. Et alors ça, déjà, en fait, c'était l'idée qui, il y a un an, me plaisait bien. C'était cette idée-là. On m'avait décrit, en fait, un peu l'endroit. On m'avait dit, voilà. T'es dans un véritable Éden urbain. Quoi. Un contexte formidable, quoi. Surtout pour les piétons. On peut très bien piétonner ici, en terminant à l'hôpital, très facilement. Et pour les abeilles, du coup, il y a des histoires de flux qui sont drôlement intéressantes. Et puis voilà, il y a cet intitulé génial qu'on n'aurait même pas voulu imaginer tellement c'est... qui est centre urbain sur 35 mètres de long, décrit en rouge, puis qui admire, voilà, un vrai panorama. Donc voilà, on a un drame et ensuite des ruches. Voilà. Et donc, on a quelque chose qui démarre en fait. On est sur une résidence qui s'installe en un point pour rayonner. Donc ça démarre aujourd'hui, mais en même temps, ça démarrait déjà il y a quelques mois parce qu'en fait, on ne pose pas des ruches en même temps qu'on pose des questions comme ça du jour pour le lendemain. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas uniquement une idée de produire du miel parce que sinon, ça s'appellerait de l'apiculture. C'est-à-dire que l'abeille, c'est que de l'adaptation. Et la ruche, c'est aussi que de l'adaptation à un écosystème. Donc l'écosystème aujourd'hui, c'est un écosystème urbain. Et donc ça va être justement la question qui va nous intéresser. De quoi cet écosystème est-il constitué? Est-ce qu'il est équilibré? Est-ce qu'il est profitable à une abeille? Quel type de butin il propose? Quand elle a butiné ces abeilles qui habitent ici? Et qui habitent ici, effectivement, au début, on a le sentiment que c'est contre nature. Quoi. Là, vous voyez, il y a 7 ruches. 2 ont été installées il y a 2 mois par des apiculteurs avec lesquels on travaille, avec lesquels on va discuter tout à l'heure. Et 5 autres sont des essaims qui ont été posés cette nuit et que l'on va ouvrir là tout à l'heure. Et on a 2 qui ont été fermés et sur les 5, 3 ont été ouvertes hier soir. Et on est ce matin avec des abeilles qui reviennent déjà les pattes chargées de pollen. Ce qui veut dire que la question de l'adaptabilité, elle a fait que entre un réveil à 6h du matin et aujourd'hui, là, quelle heure est-il, 10h30, elles ont déjà fait un vol de reconnaissance, identifié les endroits, pris des repères visuels qui laissent entendre qu'aujourd'hui elles habitent là. Voilà, elles ont trouvé leur centre et depuis ce matin, elles tournent autour du centre. Voilà. Donc ce centre urbain, c'est un centre de pollinisation. Quoi. C'est un endroit où elles vont et viennent. Elles créent des cercles de prospection et elles rapportent et concentrent en un endroit toute la diversité de quelque chose qu'on n'est pas en mesure de voir, nous, en tant qu'humains. Quoi.
On continue ou pas ?
Oui. Pour nous, Olivier, donc, qui est un artiste, qui se définit comme artiste et éleveur d'abeilles urbaines, attention, dans la distinction. Son projet était assez emblématique à différents titres pour le Merlan. D'une part, parce que lorsque nous avons entendu parler de son travail, c'était un moment où nous allions réouvrir le théâtre, donc à nouveau être, après 3 années de vagabondage, d'être à nouveau dans le lieu du théâtre. Et donc, ça nous paraissait particulièrement fort pour nous d'implanter un centre d'essaimage sur les toits du Merlan, puisque ça racontait de manière à la fois symbolique et métaphorique notre désir qui était toujours aussi fort de continuer aussi à vagabonder à travers la ville. Donc voilà, donc pour nous ça participait aussi de cette envie d'être sur des projets plus participatifs et c'est pour ça que très vite on a demandé à Olivier de voir comment on pourrait à travers son projet associer le collège qui est donc nos voisins immédiats, le collège Édouard Manet. Et donc c'est pour ça que les collégiens, Olivier très justement nous a proposé de les faire véritablement acteurs du projet à ses côtés. dernière piste aussi qui nous a particulièrement plu, c'était que ce projet interrogeait la ville et la manière dont elle se fabrique et la manière dont on l'habite. Et c'est aussi un peu un des fils roses que l'on tisse depuis la réouverture du Merlan, une réflexion un peu autour de l'habitat, d'habiter. On tourne un peu autour de ça et c'est vrai que c'est aussi pour nous, ça correspondait vraiment aussi à une des interrogations fortes qu'on a, et particulièrement aussi parce qu'on est dans ce quartier-là, mais pas seulement. Et puis, évidemment, on a croisé la grenouille, et là, c'est explosif. Donc, à travers Nelly et puis toute l'équipe, d'un coup, il y avait une concordance aussi de pouvoir parler de ce projet-là sur les ondes. C'était aussi pour nous une bonne manière d'associer une radio, voilà, un petit peu atypique sur ce projet.
Mais le vrai, moi je trouve le vrai grand butin de cette histoire-là, à travers la pollinisation de la ville, c'est un butin de questions. Le vrai miel, c'est les questions qu'elle pose, ces abeilles. Gamin me dit c'est béton, voilà, en goûtant le miel.
C'est
comme ça que c'est arrivé cette histoire. C'est-à-dire que je lui ai posé un pot de miel, je lui ai dit voilà, tiens, goûte, tu découvres le goût du quartier que tu habites, et il met son doigt dans le pot de miel et dit c'est béton. C'est comme ça que c'est devenu une sorte d'AOC local. Écosystème, ça, c'était la charnière de plein de choses. Et donc l'idée, c'est de dire, voilà, maintenant on a un centre urbain de pollinisation, qui est le Merlan, et ces abeilles-là, qui appartiennent du coup à la collectivité, on va essayer de les d'organiser des essaimages.
Bien pour ça. Je trouve ton idée excellente. Ah non, je vous ai merveillé. Et j'ai des idées d'endroits où peut-être on pourrait
d'accord.
Ça participe à la cartographie comme ça, des essaimages.
Donc, l'idée maintenant, c'est de voir comment, et ça a plus de sens de faire en sorte que cette ruche se pose ici que là, voilà, etc. Et puis de voir comment ces abeilles qui sont finalement sans domicile fixe peuvent à un moment cartographier ces différents endroits, parce qu'il n'y a pas un Marseille, il y a des Marseilles, et à mon avis, c'est ce qui va se passer là, c'est ce qu'on va essayer de faire l'année prochaine. Voir comment on a des goûts, des identités, parce que il y a plusieurs fois 3000 hectares dans Marseille, voilà, parce qu'à chaque fois, c'est un rayon de butinage de 3 km. Donc, je pense que le goût du nord par rapport au sud, à l'est, ouais, c'est autre chose. Ouais. Parce que la nature est aussi différente, voilà, mais une nature qui est, on va dire, qui est dirigée ou accompagnée par l'homme, va faire qu'à un moment, c'est à la fois l'influence des espaces verts, qui aura décidé de planter des tilleuls au Nabouvar, qu'une pratique de jardin, de jardinage ou de friche. Et puis ensuite, il y a la garrigue, quoi. Il y a tout ce qu'il y a autour de Marseille, que j'ai pas en Seine-Saint-Denis, qui va faire qu'à un moment, ça va apporter un caractère particulier. Quoi. On est dans une ville qui est contre nature, elle est entourée de nature partout, on est tout contre. Donc,
Et toi, tu amènes le miel à analyser.
Oui,
et du coup, tu peux ressortir toutes les essences, tous les pollens, voilà, toutes les fleurs.
Tout ce qui peut.
Une partie.
Ouais.
C'est super intéressant ça. Parce que ça nous donne aussi un indicateur de la richesse de la biodiversité.
Ils font des cartographies des plantes. Il y a à Metz, là-haut, ils avaient fait, ils ont un laboratoire, ils prenaient tous les pollens, et en fonction des pollens des locaux, quoi, ils arrivaient à savoir les plantes ou à le pousser en quelque sorte.
Tu vas tester donc cette ce miel là, voir tu vas l'analyser. Oui. Ça fait partie de ton travail.
C'est super, mais le comprendre c'est encore mieux.
J'ai pas su répondre en fait. Du miel dans la ville, dont les vont butiner sur des fleurs qui sont un peu polluées. Ouais. Comment ça se passe après comment on arrive à faire ça?
Parce que l'analyse.
Ouais. Quand j'ai commencé à faire du miel, au début il s'appelait pas béton. En plus, je l'appelle miel béton, donc c'est pas vraiment une appellation bio. Quoi. On n'a pas l'impression de manger quelque chose de très, très naturel. Les copains, ils se sont dit, mais attends, t'es pas en train de nous empoisonner là avec ton miel qui est fabriqué entre l'autoroute A1, la 86, le périphérique et tout ça. Et c'est vrai que je me suis posé la question. Donc, c'est au tout début. Donc, j'ai fait des recherches sur en fait des équipes de scientifiques. Il y a une équipe américaine, une équipe française, qui a fait des analyses sur des comparaisons entre un miel produit à Saint-Ouen, donc voilà, dans un contexte bien urbain, le long d'une voie de chemin de fer avec le périphérique, etc. à côté, et qui l'a comparé avec un miel de Lozère. Et ils n'ont pas trouvé plus de monoxyde de carbone, de plomb, de métaux lourds dans le miel urbain que dans le miel de Lozère. Donc ils se sont dit, tiens, comment se fait-il que le miel ne fixe pas ça? Alors leur analyse, enfin leur expertise, au début l'hypothèse était de dire, alors on a une abeille qui fait filtre. De fait, alors, ils ont pris une abeille, ils l'ont coupée, puis broyée, ils ont fait une poudre d'abeille, ils ont fait une mixture qu'ils ont analysée et ils n'ont pas trouvé de monoxyde. Donc, où sont-ils passés ces monoxydes qu'on trouve en ville et tout ça? Ils se sont dit ensuite, donc du coup c'est peut-être la plante qui fait filtre. Du coup, on a fait la même chose avec la plante, qu'on a broyé, etc. On a trouvé un tout petit peu de choses, mais pas suffisamment pour expliquer ça. Et ce qui se passe, c'est que quand on a une pollution du sol, par contre, il est possible qu'on ait une plante qui soit intoxiquée par des pollutions qu'on trouve dans le sol. Etc. Du coup, on peut dire que c'est beaucoup plus dangereux de respirer le long d'un boulevard 4 voies, ici, à Marseille ou à Paris, que de s'envoyer 4 kilos de miel urbain. Parce qu'en fait, on a un miel et un produit qui est exempt de... À cet endroit-là, la nature et l'homme sont compatibles et effectivement, ça laisse entendre que c'est bien foutu. Bon, vous n'avez pas faim?
Oui.
Hein, il faut aller goûter ça. Hein. Vous avez mangé, vous avez bu?
Ouais.
Ouais. Ouais, c'est bien. Bon, deux solutions. Soit on vous laisse là, parce qu'il faut finir. Soit on fait ce que l'on a dit, on va donc voir des films. Parce qu'il fait beau dehors, autant s'enfermer dans le noir. Non, mais c'est vrai. Et ensuite, après quoi, on ira voir les abeilles sur le toit du Merlan. Les vraies abeilles sur le toit. Je crois que c'est pas possible.
C'était pas la 50.
Ah, mais on va pas pouvoir.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le miel béton et la résidence d'Olivier Darnay au Théâtre du Merlan, contactez Anaïs Lemélian au 04 91 11 19 30 ou bien www.merlan.org.